Jean-Simon, t'as vu le fameux reportage documentaire sur Michael Jackson qui a déjà commencé à faire jaser. C'est diffusé par la chaîne HBO. Presque 4 heures. Donc, c'est en deux parties.
Exact.
Où il y a des présumées victimes de Michael Jackson qui témoignent. Apparemment que c'est quelque chose de dur à regarder.
J'ai pas passé un beau 2 heures hier soir, vraiment pas. C'est pas agréable à regarder du tout. C'est extrêmement graphique dans les descriptions. C'est lourd. Ça te remet en question sur un paquet de choses également.
Bon, il y avait déjà eu évidemment des allégations sur Michael Jackson. Il y a déjà eu, je pense, je me demande s'il n'y a pas déjà eu des procès.
Il y a eu des procès. Il y a eu des procès. Enquête du FBI.
Bon, il y a eu toutes sortes de choses. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dedans?
Wade Robson et James Safechuck sont les deux personnes, les deux victimes alléguées qui témoignent dans ce documentaire-là. Et d'entrée de jeu, l'un d'entre eux exprime « Michael Jackson était une personne infiniment gentille, qui m'a encadré, qui m'a aidé à développer ma créativité et à commencer ma carrière, mais c'est également un homme qui a abusé sexuellement de moi. » Le ton est donné dès le début du documentaire et par la suite, s'ensuit un build-up, une construction lente vers finalement les abus sexuels. Ça prend un certain temps. Il se passe beaucoup de choses avant qu'on comprenne comment ça a pu en arriver là. Ce qu'il y a de nouveau principalement, c'est que le fameux domaine de Neverland, le ranch de Michael Jackson, où est-ce qu'il passait énormément de temps avec des petits garçons dans sa chambre à jouer, à dormir, à écouter des films, ça c'était connu. Tout le monde avait déjà l'expression le Wacko Jacko, il est weird, il est bizarre, il passe du temps avec des enfants. Ses défenseurs disaient tout le temps, c'est parce que c'est un enfant à l'intérieur de lui, et ainsi de suite. C'est un tout autre portrait auquel on a droit dans le documentaire. On arrive éventuellement à des gestes à caractère sexuel qui vont très loin. Imaginez-le, c'est mentionné dans le documentaire, dès l'âge de 7 ans pour l'un des petits garçons qui est là. Et là-dedans, les questions morales qui sont posées, on lit assez facilement l'intention du documentariste, là. Les questions morales qui sont posées. Bon, la première, ériger un monument comme ça pendant la vie de quelqu'un, un être humain, pour l'ériger au statut de star et de dieu pratiquement, parce que Michael Jackson, on voit des images d'archives où est-ce qu'il est accueilli, tout ça, puis comment les gens l'accueillent, puis comment l'enfant dit, moi, à 5 ans, Michael Jackson, c'était mon Dieu. Il dit, it was my God. Il dit, lorsque je l'ai rencontré pour la première fois, j'étais comme si j'avais été baptisé. Anointed. OK? C'est à ce point-là. C'est un petit garçon, un beau petit coco. Là, je veux dire, il regarde les chorégraphies, il apprend à danser. Il a un talent de danseur inné. Il se fait remarquer. Il commence à tourner avec Michael Jackson sur la scène. Puis par la suite, Michael Jackson le contacte, se met à l'appeler, développe une relation avec les parents. Et ça, c'est la deuxième question qui est posée, je crois, par le documentariste. Le rôle des parents dans tout ça. Parce que les mères parlent à la caméra. Les mères parlent à la caméra et disent tout. Et explique à quel point ils ont été charmés par Michael Jackson, à quel point Michael Jackson s'est mis à faire partie de leur vie, à quel point, à un moment donné, une des mères dit, c'était comme mon fils, il venait à la maison, je lavais ses vêtements, je faisais à manger, et à un moment donné, il y a un lien de confiance très très fort, comme si c'était mon propre enfant. Jusqu'à ce que, à un moment donné, ces mères-là acceptent que leur petit garçon dorme dans la même chambre que Michael Jackson, en tournée, dans les hôtels, à Neverland, dans les mêmes chambres.
Alors, le documentariste questionne l'aveuglement des parents également.
Absolument. Et la troisième question qui est soulevée, il faut le mentionner.
Est-ce que ces parents-là s'en veulent? Est-ce qu'au moins ils reconnaissent qu'ils ont été aveugles, ils ont manqué de vigilance? Est-ce qu'ils disent ça?
On n'est pas rendu là.
OK.
Par contre, à un moment donné, les mères disent, à chaque fois, on pensait que c'était complètement innocent, qu'il n'y avait rien, on les voyait jouer. Par contre, elles disent, on était bien traités, on avait du champagne, les plus belles suites dans les hôtels. On mangeait à notre faim. On était traités comme des rois. C'était la vie des gens riches et célèbres. C'était la vie rêvée. Le petit gars aussi, tu sais, il y avait tout ce qui était matériel sur un plateau d'argent. Okay? La troisième chose qu'il faut mentionner, et c'est important. Dans le documentaire, on ne parle qu'aux victimes alléguées. On ne parle pas au clan Jackson. Okay? Donc, ce sont les victimes alléguées. Ce sont des gens également qui ont déjà témoigné sous serment qu'il ne s'était passé rien d'inapproprié ou de sexuel avec Michael Jackson durant des procès. Donc, je fais juste le mentionner, ça ne veut pas dire que les témoignages sont faux.
Non, mais le clan Jackson, ça sert de ça actuellement.
Oui, absolument.
Parce qu'ils ont déjà commencé à répondre. Oui. Ils disent que c'est des gens qui ont déjà témoigné, mais pour Michael Jackson.
Sauf que les deux témoignages se font d'abord séparément. Vous avez un des témoins qui parle, l'autre ensuite, ils ne sont pas dans la même pièce. Et tout est corroboré. Je veux dire, les mêmes gestes.
Est-ce qu'il explique pourquoi ils ont témoigné pour Jackson? Je pense que oui. Hein?
Dans la deuxième partie, ils vont le faire.
OK, parce qu'il était sous son influence.
Oui, exactement.
Un peu comme un gourou.
Oui.
Puis ils ont été en cours, puis ils ont accepté de le protéger en quelque sorte.
Pas comme un gourou. comme un amoureux, comme un amant, et c'est le terme qu'il utilise. C'est une relation amoureuse qu'on a développée avec lui. Parce que c'est notre, il disait, c'est notre Dieu, c'est notre idole, et lui s'intéresse à moi. Lui, lorsqu'il me montre des gestes à caractère sexuel, je pense qu'il veut mon bien. Je me pose pas la question jusqu'à ce que ça aille un peu trop loin puis qu'à un moment donné, il débarque, là. Mais moi, je pense que... Puis il me dit, là, il m'appelle mon amour, t'es mon amour, puis il commence à me monter tranquillement. Et là, c'est là que ça devient fascinant. C'est que toute la stratégie des pédophiles, des prédateurs d'enfants est exposée.
Ouais.
Hein? C'est la même chose que ce qu'on lit dans les journaux ou ce qu'on entend à la télévision.
Pour les attirer.
Oui,
pour les...
Ouais. Oui, le grooming, la stratégie du grooming. On appelle ça comme ça en anglais, c'est-à-dire prendre un enfant, prendre soin, le faire apprécier au point où les gestes répréhensibles, les gestes à caractère sexuel deviennent pratiquement naturels pour l'enfant. Donc, on lui donne n'importe quoi. On l'assoit au cinéma, tu manges tous les chocolats que tu veux tranquillement. Et l'autre monte contre ses parents. Il montait les enfants, selon les allégations,
oui,
tranquillement contre ses parents. Hein? Ta mère, on sait bien, les femmes, hein? les femmes sont mesquines. Les femmes ne nous comprennent pas. Il n'y a personne qui va nous comprendre. Hein? Il ne faut pas que tu en parles. Hein? Si tu en parles, ma vie va être terminée, la tienne aussi. Hein? C'est pas des choses qui sont acceptées dans la société. Il ne faut pas en parler. Et tout ça dans un contexte où est-ce qu'il continuait à les amener jouer dans des manèges et ainsi de suite. Alors, c'est ça, ce documentaire-là, Leaving Neverland, qui laisse un très mauvais arrière-goût.
Il y a une question maintenant qui s'oppose un peu à toute la société. On fait quoi avec sa musique? Bon, ce reportage-là, d'abord, c'est pas nouveau. Il y avait déjà eu, on l'a dit, en mm-hmm. partant des allégations, tout ça, mais ça renforce. Ça renforce donc l'histoire,
oui.
Toutes les allégations qui ont déjà eu dans le passé. On a deux témoignages crédibles. Hein?
Exact.
Et c'est des gens à visage découvert, si je comprends
oui,
bien.
Oui, avec beaucoup de détails.
Bon, avec des détails. Alors, maintenant qu'on a ça, il y a des gens qui vont dire, ah, il y avait déjà des éléments. Oui, mais là, on en a plus. Donc, ça ramène le débat. Qu'est-ce qu'on fait avec sa musique? Là, vous avez deux écoles de pensée. Je vous demande quelle est la vôtre, 25226. Il y en a, il s'est commencé, la BBC, c'est le plus important réseau public au Royaume-Uni, l'équivalent de notre Radio-Canada ici.
Ouais.
La BBC a annoncé qu'il ne jouait plus aucune chanson de Michael Jackson. J'ai vu ça passer
ouais.
Récemment. Il y en a d'autres aussi qui ont réagi. Différemment, soit qu'on interdit, on dit on joue plus ça, c'est un pédophile, c'est un agresseur, on n'a pas à jouer sa musique, ou encore, on fait une distinction, je vous parle de l'autre école de pensée. L'œuvre et l'artiste, c'est deux choses. Alors, l'artiste Michael Jackson peut être jugé par la société, mais sa musique, on peut la jouer pareil. 25226, on peut faire un tour de table. Là-dessus, le débat fait rage.
C'est vraiment une bonne question. Parce que si on compare avec d'autres histoires comme ça qu'on a vues, les gens n'ont pas nécessairement tourné le dos à l'œuvre de Roman Polanski ou à l'œuvre de Claude Jutras ou à d'autres personnes qui ont œuvré dans le milieu du cinéma ou de la musique qui ont dont il y a eu des allégations d'abus sexuels de leur part. Mais est-ce qu'on va condamner leur œuvre qui implique non seulement eux, mais d'autres personnes aussi qui y ont contribué? Dans le cas du cinéma, tu as eu des acteurs qui ont joué dans ces films-là, tu as eu des techniciens, tu as eu un paquet de gens qui ont travaillé là. Pour la musique de Michael Jackson, c'est la même chose. Tu as eu des musiciens, tu as eu des auteurs, tu as eu des... Alors, est-ce que tu condamnes la musique de l'homme ou bien tu laisses les gens décider, en fait. Tu laisses les gens décider s'ils vont garder la musique dans leur liste de Spotify ou d'Apple Music, tu sais.
Est-ce que ça... Tu sais, ce qu'on veut, ce que la société veut, c'est dénoncer ce genre de choses-là puis que ça n'arrive pas. Est-ce que boycotter une chanson, ça aide? Je vais juste poser la question. Je vous le dis, il y a des bons arguments dans les deux camps, là. Mais mettons qu'on décide au 93 qu'on ne joue plus Michael Jackson. Est-ce qu'on a fait un pas pour mieux protéger les enfants contre les pédophiles?
Ton point est bon.
Je pense pas, moi.
Mais...
Ouais, il faut en parler, il faut combattre ça, mais de pénaliser l'œuvre. Si les sentences sont plus sévères sur les pédos, si, par exemple, ici au Québec, il y a des gens qui militent pour un registre public... Tout ça, moi, c'est des choses vers lesquelles je pense qu'il faut se tourner. À tout le moins, il faut en débattre de comment on traite les pédos, etc. La toune, l'œuvre, le film, de boycotter ça, est-ce que ça aide? Est-ce que par contre, un peu, le choix individuel sera toujours respecté. Si quelqu'un décide qu'il y a dans son cellulaire des tounes de Michael Jackson, et que suite à ça, il les efface, ça, c'est tel que tel. J'ai rien à dire là-dessus, là, parce qu'il est plus capable, parce que ça le dégoûte. Moi, je parle de la société. Est-ce qu'on doit bannir les œuvres des pédophiles? Parce que tu l'as mentionné, c'est pas juste en musique. Alors, on fait quoi? Puis là, on peut déborder, on parle de pédophilie, mais
oui.
À l'ère du mouvement
MeToo,
est-ce qu'on arrête de regarder House of Cards? Est-ce que la saison 1... Est-ce qu'on peut encore regarder ça?
Tous les films de Harvey Weinstein, est-ce qu'on arrête de les regarder aussi?
On fait quoi, là? Et, bon, avec, avec les chansons de, voyons, depuis tantôt que je cherche le nom, mais le chanteur français qui a été accusé de... Ben, pas été accusé, il a été reconnu coupable d'avoir tué sa femme.
Ah, oh, c'est...
Bertrand Cantat.
C'est ça. Bertrand Cantat, c'est Noir Silence. Qu'est-ce qu'on fait? C'est tout ça, Noir Silence?
Oui. Un peu. Et, ou Noir Désir.
C'est Noir Désir.
Noir Silence,
c'est... On a fait... On a fait une petite erreur. Ouais. Confusion. Si Yvan Ponton était là, il sifflerait. Confusion. C'est Noir Désir.
Noir Désir.
On fait quoi avec les chansons de Noir Désir? C'est parce que depuis qu'on sait que Bertrand Cantat a tué sa femme, la toune est encore bonne. Sauf sais, ça a l'air... Mais c'est pas pour l'amateur de musique ou de cinéma ou de littérature, qu'est-ce qu'on fait avec Céline?
Oui.
Est-ce que, là, je parle pas de Céline Dion, je parle de Louis Ferdinand. Céline, l'auteur. Vous savez que c'est un antisémite, un raciste qui a collaboré avec Pétain puis sa gang pendant la Deuxième Guerre mondiale. Là, regarde, c'est
épouvantable.
L'individu, là. Mais il a écrit Voyage au bout de la nuit, qui est, selon les experts, c'est une des plus grandes œuvres. Bon, ça a été salué. Regarde, je l'ai pas lu, là. Mais je sais que cette œuvre-là est apparemment remarquable. Alors, est-ce qu'on enlève des librairies les œuvres de Céline parce que c'est un raciste?
Ouais,
l'œuvre comme telle est pas raciste, en passant.
Non, non, non.
Mais certains de ses écrits, oui, mais pas Voyage au bout de la nuit.
Non.
Mais est-ce qu'on le tasse parce que l'individu est raciste?
Mais n'oubliez pas une chose aussi, c'est que je pense qu'il y a quand même une différence quand il est question d'un individu qui est encore en vie puis un individu qui est mort. Présentement, c'est pas Michael Jackson qu'on enrichit en jouant sa musique, c'est ses descendants, ses enfants qui ont rien à voir là-dedans, sa famille qui a rien à voir là-dedans. L'individu, Michael Jackson, il fait plus d'argent avec sa musique, il est plus là, il est décédé. Et Dave nous écrit justement au 25-226.
Non, mais mais c'est une notoriété
posthume.
Posthume, pareil. Je peux comprendre ceux qui ont un malaise. Je vous le dis, il y a des bons arguments dans les deux cas, là.
Mais c'est ça. Puis Dave,
moi, je suis capable de faire la distinction. Je penche plus vers le... Il y a une distinction entre l'œuvre et l'artiste. Mais je comprends les gens de l'autre camp qui ont des arguments sur un certain sentiment de dégoût. Est-ce qu'on devrait quand même permettre à ces œuvres-là d'avoir un espace public? Tu sais, il y en a d'autres, là. Il n'y a pas juste une chanson. Il n'y a pas juste un film. Il n'y a pas juste...
Mais par rapport à sa succession, justement, Dave nous écrit « On va pénaliser qui en faisant ça? » Sa succession qui n'a rien fait, qui ne toucheront plus de droits d'auteur si on finit par ne plus jouer sa musique. Mais dans
sa succession, ils le défendent. Alors, les gens pourraient dire, ouais, c'est pas l'individu qu'on enrichit, c'est les proches. Mais souvent, les proches continuent de défendre ces gens-là. Dans le cas des Jackson, c'est le cas, en passant.
Catherine nous écrit, moi, c'est impossible de départager les deux. Je ne peux plus écouter de la musique de Michael Jackson sans penser aux agressions.
Je respecte ça.
Quelqu'un d'autre nous écrit, commence à être temps que le monde se réveille. On savait depuis longtemps, pas besoin de sa musique non plus. Et quelqu'un d'autre est plus nuancé. Il dit, c'est un grand artiste, mais un grand dérangé. Alors, je ne sais pas trop quoi en penser. Est-ce qu'on le boycotte ou pas? Est-ce qu'on arrête de le vénérer? Oui. Mais pour la musique, je pense pas que le boycott, c'est vraiment la solution.
On ouvre la porte. Quand je vous dis que les arguments sont bons, là, des deux camps, si vous voulez faire ça, la seule affaire, c'est qu'il va falloir être cohérent. Ça veut dire qu'il ne faut pas juste le faire sur Michael Jackson. Mettons, on ne joue plus Michael Jackson. Avez-vous une idée du nombre d'œuvres cinéma? Parce que, il n'y a pas eu tant que ça, là. Mais comme les mœurs ont changé beaucoup, et pour le mieux, surtout des artistes d'une autre époque, on va en tasser beaucoup, là. Woody Allen aussi. On va en tasser Woody Allen. Les allégations ont été très, très sévères.
Claude Jutras ici.
Mais oui, mon oncle Antoine, c'est fini.
Mais c'est ça. Là.
C'est terminé, on enlève ça, alors que selon certains, ça demeure un très grand film. Moi, je veux pas...
Il y a Maryse qui nous écrit, je crois que tu peux jouer sa musique, mais tu le mets plus dans les temples de la renommée ou les prix quelconques. Là, tu ne descends plus de prix, tu le vénères plus, mais sa musique a le droit de jouer encore. Là. Et ensuite...
Est-ce que... Ouais. Mais tu sais, mettons, là, en fin de semaine... Ça y aurait-tu tenté, Jackie Pop, d'envoyer Thriller? Ça y aurait-tu tenté? Hey, la gang, on a-tu fun, c'est la fin de semaine? T'sais, il est bon, là, Jack. Hey, OK, on se tape un bon Michael Jackson. Tu sais, même si je le sais qu'il y a une distinction entre l'œuvre et l'artiste, mais tu sais, les médias, on pousse, on fait en quelque sorte la promotion un peu, même si l'individu est décédé, de l'artiste. Tu peux pas le séparer complètement de son œuvre. Alors, tous ceux qui disent qu'il faudrait bannir... Je comprends cet argument-là. Moi, j'aurais eu de la misère, mettons que j'aurais été un show musical, là. Mm. Puis tu m'aurais dit à matin, tu sais, imagine qu'à matin, tu parles du documentaire puis t'as la toune sur ton log.
Mais je vais t'avouer, c'est
moi, je tors ça,
que moi, je suis de l'école.
Moi, je tors ça, je joue pas ça, là.
L'école, justement, œuvre et artiste séparés en général, mais en écoutant le documentaire, là, ça m'a vraiment fait travailler moralement, là.
T'es plus sûr?
Parce qu'il va falloir que je sois conséquent, tu comprends? Mais tu sais, Bertrand Cantat, il a été puni par les êtres humains et la société. Michael Jackson est mort. C'est quoi la seule forme de punition, entre guillemets, qu'on peut donner à un mort? Détruire son immortalité. son immortalité puis sa notoriété posthume.
Moi, ouais, mais c'est sa descendance aussi. Il faut faire attention. Quand il est décédé, c'est la famille qui finit par avoir les conséquences de ça. Puis je veux juste répondre à Diane. Diane a dit bannir les œuvres, c'est au choix. Ça aide pas les victimes, mais au moins ça peut priver les dégueulasses d'un revenu tiré de cette œuvre. Les dégueulasses, c'est pas la famille de Michael Jackson. Sa fille Paris Jackson était pas au courant de ce que son père faisait dans le temps. Puis es-tu d'accord avec le fait que sa famille se met à défendre son père publiquement? On le sait pas.
T'as un point. Puis moi, je te réponds que ses frères le défendent actuellement.
Ouais. C'est ça, mais
pas d'envoyer de l'argent à ses frères.
Mais le clan Jackson, c'est bien du monde, Sylvain. Ouais. C'est bien du monde. Est-ce que tout le monde est d'accord avec la démarche de le défendre? Ça, on le sait pas. Là. On n'est pas dans les discussions. Là. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire attention, je pense.
C'est un très bon débat. Continuez à nous écrire sur 25226. C'est probablement, je veux juste conclure là-dessus. Tu sais, à chaque fois qu'on parle d'un artiste là, ou d'un chanteur ou n'importe quoi, on sort les tounes. Si je demande à Jean de partir 2-3 tounes de l'artiste dont on vient de parler, on fait tout le temps ça. Hein? Et vous remarquez qu'on l'a pas fait, puis je le ferai pas non plus, puis ça me tente pas. Ça démontre qu'il y a un malaise pareil.
C'est
là.
Clair.
Or, la toune est encore aussi bonne.
Oui.
Beat It, c'est encore aussi bon là que avant que le reportage d'HBO sorte, ou etc. La toune, est-ce qu'une œuvre, ça a une indépendance? Tu sais, une fois qu'elle est poussée
une
dans
vie,
le ciel,
une vie
fois,
propre,
ça a-tu sa propre vie? Puis on peut-tu dire la toune n'est pas mauvaise en soi?
Mais c'est Beat It, là.
C'est pas évident.
Beat It, en anglais, ça veut dire sac ton camp. Je te dirais que si les allégations sont vraies, là, Beat It, Michael Jackson.